Bonjour, c'est une vie, une œuvre. Averroès, né le 14 avril 1126 à Cordoue, en Andalousie, est mort le 10 décembre 1198 à Marrakech, au Maroc. Averroès est un philosophe qui fut avant tout praticien et théoricien de la médecine et du droit, un génie aux connaissances étendues. Il a partagé sa vie mouvementée entre l'Espagne et le Maroc en qualité de juge et de médecin. Grand commentateur de la philosophie d'Aristote, dont l'influence pénétra les esprits, y compris des théologiens chrétiens du Moyen-Âge, comme saint Thomas d'Aquin. On venait le voir de loin en consultation, aussi bien en médecine qu'en matière juridique. Sa pensée a enjambé à tire-d'aile les frontières et traverse les langues, mais pas sans controverse. Aujourd'hui, c'est Nejma Bouakra et Marie Placé qui vous proposent Une vie, une œuvre, Averroès.
L'histoire de l'averroïsme n'est, à proprement parler, que l'histoire d'un vaste contresens. D'altération en altération, la philosophie...
1852, Ernest Renan.
Le contresens aux époques d'autorité est comme la revanche que prend l'esprit humain contre la faillibilité du texte officiel. Donc, texte magnifique de Renan qui est pratiquement un éloge du contresens.
Averum, ça veut dire ce qui est privé du vrai. Donc, Averroès, dans son nom même, porterait la négation de la vérité. Donc, Averroès, c'est le faux. Quand on en vient à le dénoncer comme ça, par l'étymologie, évidemment, fantasque de son nom, on voit bien le double statut que revêt son personnage dans l'Europe latine. C'est à la fois le plus grand des lecteurs d'Aristote, qui d'ailleurs apprend en partie à l'Europe à commenter aussi, à lire un texte, et sur certains points, le plus grand des traîtres, celui qui produit des thèses absolument inacceptables et qu'il ne faut pas suivre, et qui par ailleurs apparaît comme un hypocrite qu'il faut absolument condamner. Plutarque, la référence est assez célèbre, qui parle d'Averroès comme d'un chien enragé. Ce poison d'Averroès, parlant sans réfléchir, son vacarme venimeux, les crachats lancés de sa bouche puante à la face du ciel. Et dans l'histoire de fait, quand on regarde les propos qui ont été tenus sur Averroès, il n'y a presque pas d'équivalent. À part Spinoza, aucun philosophe n'aura été plus maltraité, plus discriminé, plus maudit qu'Averroès lui-même. Dans l'histoire, ce qui reste, c'est Averroès le maudit. C'est Averroès le fou, l'absurde, l'homme d'une thèse totalement débridé, inacceptable, qui consiste à ruiner l'humanité même de l'homme. Donc c'est cela qui va dominer dans l'histoire.
Averroès, ou l'éternel retour du contresens. Un documentaire de Nejma Bouakra et Marie Placé. Il est un peu le savant à tout faire, l'intellectuel avant l'heure, ou celui qui porte la bannière des Lumières, de la raison, bien qu'il soit né au XIIe siècle et non au XVIIIe. Averroès, ou Ibn Rushd, tient de la légende dorée ou noire, le philosophe s'avançant masqué, c'est-à-dire sous le couvert des philosophes grecs qu'il commente. Et c'est à sa figure que l'on s'agrippe pour pourfendre l'obscurantisme islamique. Or, Averroès est un homme de foi, intransigeant quant au respect de la charia, le corpus juridique musulman. Et c'est à la charge des juristes, Averroès et juge, d'interpréter la loi de source divine. Il articule pouvoir politique et religieux en s'appuyant sur l'énonciation de règles valant pour tous. La vérité ne saurait contredire la vérité, elle s'accorde avec elle et témoigne en sa faveur. Est une des phrases du grand homme qui a fait couler beaucoup d'encre. Il n'est pas l'homme de la double face, d'une même médaille, celle du dissimulateur. Non, il s'inscrit dans l'époque bénie de la translation, où les textes venus des mondes grecs se traduisent en syriaque, en hébreu, en latin, et sans oublier la langue arabe, langue de la falsafa ou philosophie qui ne débute pas avec Averroès.
Il n'est pas arrivé dans un désert, effectivement. Donc Averroès était en Andalousie, El Andalus.
Karim Misquet.
Il était exactement à l'époque des Almohades, donc qui était une dynastie berbère qui était venue du Maroc et qui était venue envahir l'Espagne musulmane pour la remettre sur les rails de leur point de vue, c'est-à-dire d'un point de vue millénariste. Puis bon, après, ils ont créé leur sultanat et ils ont un peu adouci à un moment leur vision des choses, ce qui fait que Averroès, qui était quand même un penseur très moderne pour l'époque, effectivement a pu s'exprimer dans ce contexte. Mais si on remonte, on va dire deux ou trois siècles auparavant, et si on quitte l'espace de El Andalus pour aller beaucoup plus à l'est dans le califat abbasside, donc autour de Bagdad, ils ont commencé à coopter dans le pouvoir de l'époque des convertis à l'islam, donc des gens qui étaient chrétiens, zoroastriens, des différentes religions polythéistes du coin, ou bien juifs également, et qui s'étaient convertis à l'islam. Et donc surtout leur grand projet, ça a été de rassembler toute cette connaissance, donc de s'ouvrir politiquement et aussi de s'ouvrir, peut-être pas religieusement, mais en tout cas philosophiquement, scientifiquement. Il y a eu la création de ce qu'on appelait en arabe le Bayt al-Hikma, c'est-à-dire la maison de la sagesse. Et donc ils ont fait venir tous les textes qu'ils pouvaient trouver, aussi bien des textes sanscrits qui venaient de l'Inde, que des textes qu'en fait ils avaient sous la main, parce qu'il y avait plein de monastères chrétiens dans la région, c'est-à-dire la Perse, enfin l'équivalent de l'Iran et de l'Irak actuel. Et dans ces monastères chrétiens, il y avait les textes de Platon, d'Aristote, etc., etc. Donc tous ces textes qu'ils ont rassemblés, ils les ont fait traduire en arabe. Et ça, ça a créé tout d'un coup une énorme somme de connaissances. Et évidemment, les penseurs de l'époque se sont mis à travailler cette connaissance ensemble. C'est-à-dire que dans cette maison de la sagesse, il y avait aussi bien des musulmans, donc comme Al-Kindi par exemple, que des juifs ou des chrétiens. Et ensemble, ils ont produit voilà, une énorme somme de savoir. Alors, ça se passe avant Averroès, mais c'est important pour comprendre Averroès, Ibn Rushd, parce que Cordoue a voulu rivaliser avec Bagdad.
Nous avons évidemment la chute de l'Empire romain qui a succédé à des établissements carthaginois, ici. Les Visigoths entrent, dominent militairement l'Espagne, mais sont à leur tour dominés par la culture et par l'administration des Latins qui étaient ici. Ce sont en fait des barbares qui se sont établis ici comme conquérants. Leur administration était faible et d'ailleurs très désunie. Un état d'opposition entre les rois qui était électif à ce moment-là, a rendu possible une arrivée extrêmement facile des musulmans en Espagne. Donc en 711, quand ils arrivent, la résistance a été pratiquement nulle. Quelques batailles devant Écija à Guadalete, qui sont connues de tous, c'était un déferlement. Et quand les arabo-berbères arrivent ici, ils arrivent avec une culture beaucoup plus élevée, beaucoup plus complexe que celle des Visigoths. Ils se sont tout naturellement entendus avec les populations latines. Et ce que nous appelons, à mon avis, d'une façon tout à fait erronée, les Arabes d'Espagne sont en fait des Romains, des Latins convertis à l'islam. Les véritables Arabes ici ont été d'une infime minorité. Et pendant 8 siècles, il s'est établi ici une civilisation, une culture musulmane extraordinairement brillante. J'irai même plus loin, je crois que l'aspect attrayant, l'aspect épique, l'aspect littéraire qui est attribué au Maghreb dans les histoires, dans la pensée arabe actuelle, doit comprendre Al-Andalus pour exister pleinement. Sans Al-Andalus, l'islam occidental a perdu son plus beau fleuron.
Henri Laurence, Averroès est-il arabe ? Il était ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui espagnol musulman.
Bah, il était d'Al-Andalus, il exerçait une fonction importante de juriste, de juge à Al-Andalus, mais c'était surtout une époque où l'arabe était une langue de culture qui dépassait les limites de l'arabophonie, un peu comme le latin médiéval dans l'ensemble d'Europe, c'est-à-dire qu'on écrivait en arabe en Perse, enfin en Iran ou en Afghanistan, parce que c'était la langue des savants.
Cordoue, c'est un centre important du pouvoir, dont le pôle est à Marrakech.
Jean-Baptiste Brunet.
Mais c'est tout Al-Andalus, en vérité, qui constitue un lieu d'effervescence du savoir à l'époque du pouvoir almohade, de façon un peu providentielle ou magnifiquement accidentelle, parce que il y a chez le fondateur de l'idéologie almohade, Ibn Tumart, qui était berbère, il y a l'idée que la raison joue un grand rôle et qu'au fond, l'individu, par la force de sa raison, peut, en regardant le monde, accéder à Dieu. Que le monde est une sorte de signe qui peut s'interpréter par la raison et nous conduire jusqu'à Dieu, au Dieu unique dont on doit confesser la vérité et l'unicité. Donc il y a une dimension assez rationnelle dans l'almohadisme qui allait assez bien dans le sens de la philosophie. Passé la mort d'Ibn Tumart et de son premier successeur, arrive au pouvoir quelqu'un au service duquel va travailler Averroès, et les deux vont devenir amis, y compris avec son fils. Donc il y a une génération là un peu bénie pour la philosophie, parce que arrive au pouvoir un prince donc véritablement intéressé au savoir tel que les Grecs l'ont promu, et chez les Grecs tel qu'Aristote, mieux que les autres, semble-t-il, l'a pensé.
Il semblerait qu'Averroès dise « Il nous faut Aristote dans cette île d'Espagne, il nous le faut ».
Oui, il faut Aristote parce que, précisément, Cordoue et Al-Andalus n'est pas un lieu de traduction à proprement parler. Averroès lui-même ne connaît pas le grec, il ne parle et ne comprend que l'arabe, et donc il est dépendant des textes traduits qui lui parviennent. Il est dépendant de sa bibliothèque.
Averroès appartient au monde du manuscrit et non pas au monde de l'imprimé. Et nous avons toujours tendance, de façon anachronique, à lire les auteurs de textes manuscrits comme si c'était des livres imprimés, et alors que les diffusions, les transformations des textes étaient totalement différentes dans l'ordre du manuscrit et dans l'ordre de l'imprimé. Vous savez qu'une des premières conséquences de l'invention de l'imprimerie, c'était de fixer les textes des auteurs grecs et latins en comparant les manuscrits. Chaque texte manuscrit comportait un certain nombre d'erreurs de copie ou de restauration ou de réintégration. Averroès lui-même n'hésite pas à corriger ce qu'il pense être des fautes sur les manuscrits qu'il lit des auteurs qu'il précède.
C'est un corpus très troué qu'ils ont, et ce pouvoir qui les accompagne et qui les suit, et qui est donc si important pour la promotion de la philosophie qu'ils sont en train de mener, n'est pas un pouvoir traducteur, n'est pas un pouvoir qui fait traduire. C'est un pouvoir qui, au mieux, convoie les textes, les fait parvenir jusqu'à eux, et puis autorise, à titre privé, la pratique de la philosophie, et promeut l'exercice de cette forme de savoir qu'est l'aristotélisme. Disons qu'on a de temps en temps, chez ces auteurs qui sont peu enclins à la confession, à l'autobiographie, on a quelques petits détails où Ibn Baja ou Averroès parlent de leur bibliothèque qui se trouve dans une autre ville et de la grande difficulté qu'ils ont à accéder à leurs propres textes. Ils sont donc contraints parfois de travailler par mémoire ou sur la base des quelques bribes qu'il leur reste. Donc le corpus d'un Farabi ou le corpus d'un Avicenne n'est pas celui d'un Averroès. Il faut toujours avoir en tête, pour comprendre comment la philosophie arabe s'est faite et en comprendre les différences, le caractère très concret, très historique. Il travaille toujours sur la base d'un corpus variable, accidenté, un corpus qui est un corpus de textes traduits, donc plein de trahisons, plein de trous. Je vous donne un exemple assez célèbre qui a longtemps été intrigant pour les spécialistes. Averroès, lorsqu'il commente ce qu'on appelle les petits traités d'histoire naturelle d'Aristote, ces petits traités de physiologie qui parlent du sommeil, de la respiration, de la vie, de la mort, de la vieillesse, eh bien, il produit un texte qui n'a à peu près rien à voir avec ce que nous connaissons du texte grec d'Aristote. Ça donne la liberté du contresens et de la trahison. Quand on n'a pas toute l'heure, et que c'est une œuvre par ailleurs qui n'est pas dans sa langue originaire, eh bien, l'esprit fait ce qu'il peut, même l'esprit désireux d'être le plus fidèle possible, ne peut pas faire autre chose que de suivre une ligne qui parfois n'est pas la bonne, ce qui donne lieu à une vie de la pensée faite de contresens, de décalage, de glissement et de création aussi. Donc c'est une loi de l'esprit humain que de trahir, de tromper et puis de créer. Heureusement que l'histoire de la pensée n'est pas qu'une histoire de répétition un peu sèche où on ne ferait que relire toujours sous des langues différentes le même énoncé.
Ces manuscrits ne sont pas statiques et en même temps, c'est le lieu de ce qu'on appelle la dispute ou la disputation. C'est-à-dire que chacun débat, commente les textes, par exemple, à Cordoue.
Alors, les disputes, effectivement, c'est quelque chose qui est très très important, et pas pour rien. C'est-à-dire qu'en fait, la dispute, c'est une manière d'accepter et de faire avec la pluralité religieuse.
Karim Misqué.
Il y avait une volonté quand même, à cette époque-là, de la part des souverains musulmans, de favoriser un certain pluralisme de la pensée. Et aussi de donner une place symbolique à ces minorités qui quand même faisaient beaucoup la prospérité du Dar el-Islam, donc du pays de l'islam. C'est bien évident que les marchands, les artisans juifs, les marins grecs qui étaient chrétiens, enfin tous ces gens-là qui se retrouvaient à différentes périodes de l'histoire sous domination musulmane, faisaient la richesse et la prospérité. Que ce soit à Cordoue ou à Bagdad, où il y avait une telle... on va dire recherche intellectuelle, c'est un peu un mélange de, je sais pas, la Silicon Valley et du Collège de France aujourd'hui. Les innombrables bibliothèques de Cordoue, d'Al-Andalus en général, c'est le soft power de l'époque. Il fallait intégrer ces minorités, il fallait intégrer ces minorités aussi dans la création intellectuelle et même dans la théologie en fait, parce que la théologie musulmane allait devenir plus forte en se confrontant au regard extérieur des chrétiens et des juifs. Et donc, ces disputes étaient organisées, c'est-à-dire qu'on prenait un point de théologie précis qui allait se retrouver et dans le Coran, et dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament. On invitait à la cour, même des fois, devant le calife, ça pouvait arriver des prêtres, des rabbins, des imams ou des gens, des spécialistes du fiqh, du droit musulman, enfin, peu importe le thème. Et le seul truc, c'est qu'à la fin de la journée, il fallait que ce soit l'islam qui gagne. Voilà. Parce que il faut quand même, à la fin de la journée, réaffirmer la supériorité symbolique de l'islam, parce que c'est la religion du pouvoir et que ça se remet pas en cause. Et qu'on n'est pas dans des époques où on remet comme ça le pouvoir en cause. Bon, à la fin de la journée, c'est les musulmans qui gagnent, mais entre-temps, il s'est dit énormément de choses. Voilà, et donc la dispute, même si on sait que les dés sont pipés, que c'est une dispute truquée, parce qu'en fait on connaît le vainqueur à l'avance, quand même... Tout ce qui va s'échanger comme argument, c'est important et ça nourrit finalement tout le monde en fait. Et ça nourrit quand même la société. Et le simple fait d'être capable de s'écouter pendant toute cette journée ou ces journées, c'est déjà en soi un fait important.
1997, Le Destin. Un film de Youssef Chahine.
Mais foutez-leur la paix! C'est trop pour des gamins, grands juges, regarde-les! Qu'est-ce qu'ils peuvent savoir de ce monde ou bien du paradis?
Quelle est la stature d'Averroès? Si on pense qu'il est à la fois cadi, philosophe, quelle est sa stature dans le monde de son époque?
C'est certainement un notable important, une espèce de grand juge, si vous voulez. Là où il est à Cordoue, et par ailleurs, il fait de la controverse avec les autres auteurs musulmans de 100 ans qui l'ont précédé, et ceux qui ont contesté, lui conteste ceux qui ont contesté, ainsi de suite. C'est la règle des intellectuels, même dans le manuscrit.
Abou Saad, le grand juge, il ne changera pas d'avis.
Du moment que le juge sait Averroès, tu n'as rien à craindre.
Hé, grand juge Averroès! Que Dieu te prête longue vie, qu'il illumine tes pas chaque jour davantage!
Ibn Rushd était qadi.
Ali Ben Mahlouf.
Juge à Cordoue, il était qadi al-Qudat, juge suprême à Grenade.
Est-ce qu'on a une petite idée du contenu des jugements que pouvait bien rendre Averroès?
Alors, Averroès était, comme ses prédécesseurs, sollicité pour des questions relatives à la responsabilité des jeunes. Quel est le moment de passage à la pleine responsabilité, à la sortie de minorité? Ce que je dois aussi vous dire, puisque vous me demandez sur ces jugements, il faut distinguer entre le jugement rendu et les avis consultatifs qu'on appelait fatwas, qui là aussi n'ont rien à voir avec les fatwas de Khomeini. Là, on a l'impression avec Khomeini que la fatwa est un diktat politique, d'une politique islamique rigoureuse. La fatwa, c'était un avis consultatif. Il arrivait qu'il y ait des situations perplexes sur lesquelles le juge n'arrive pas à rendre son jugement, il va consulter un mufti. Et donc un mufti donne des fatwas, c'est-à-dire des avis consultatifs, et le droit musulman est plein de ces avis consultatifs. Faut-il ou non maudire un tel pour tel acte? Alors la réponse, non, certainement pas, parce que personne n'est habilité à maudire qui que ce soit. Voilà le type de fatwa qu'il pouvait rendre, par exemple.
Vous voulez vous taire? Écoutons la sentence.
Inna al-wahi يخاطب الكائن الذي يملك العقل وهو الإنسان والشريعة بالوحي والعقل معا إن الشرع يقوم على إدراك الأسباب والعلل والوسائل والغايات
est un don réservé à la seule créature douée de raison, c'est-à-dire l'homme. La loi divine conjugue raison et révélation. La loi divine s'efforce de cerner la cause même des choses, leur effet, définit les buts et les moyens de les atteindre. La révélation intègre la raison, et la raison fait sienne la révélation. La religion se confond avec l'ignorance pour certains jeunes, alors que certains vieux érigent l'ignorance en religion. Les trois jeunes accusés ont sombré inconsciemment dans la perdition. On pourrait même aller jusqu'à dire qu'ils y ont été poussés à leur corps défendant. L'islam, dans sa grande équité, refuse de condamner ceux dont le jugement a été perverti et la raison égarée. La cour, usant de toute sa clémence, ne requiert pas la peine capitale contre eux. Elle condamne les trois accusés à une peine de 5 ans de réclusion. Tout-Puissant est celui dont on dit « Nul ne l'interroge sur ce qu'il fait, mais les hommes seront interrogés ».
La tradition juridique est véritablement très importante, non seulement par rapport au texte lui-même, mais aussi par rapport à la société, puisque les juristes pouvaient ainsi présenter comme un contre-pouvoir par rapport au pouvoir politique, en rappelant les devoirs du prince, en rappelant les exigences d'un bon gouvernement, et la charia a joué aussi un rôle de contre-pouvoir au pouvoir proprement politique. La charia est une loi qui recommande et oblige les croyants à aller chercher le savoir. Et lui, il était dans cette obligation d'aller vers l'ilm, la science, qui est le terme le plus fréquent, non seulement dans son œuvre, mais le plus fréquent dans toute la littérature médiévale, beaucoup plus fréquent que le mot de religion, ad-din. L'ilm, c'est la science, c'est véritablement le paradigme commun qui traverse tout ce médiéval au-delà d'Averroès. Et auprès du prince, eh bien, il n'est pas conseiller, il est médecin et il est philosophe travaillant à ses commentaires.
Comme cela peut nous paraître étrange, Ali Ben Makhlouf, maintenant aujourd'hui, oui, de penser qu'on peut être à la fois médecin, juge et philosophe.
Oui, les disciplines étaient configurées d'une toute autre manière et la logique et la médecine ont été pour ces deux spécialités-là effectivement des compétences incarnées dans une même personne. Vous savez, c'était véritablement les intellectuels, puisqu'ils considéraient que la meilleure vie c'était la vie sous la conduite de l'intellect, et c'est proprement fascinant.
Il y a une anecdote, je vous disais qu'Averroès livre peu d'anecdotes sur sa vie, mais il en est une qui circule, assez belle.
Jean-Baptiste Brunet.
Et il dit qu'il a arrêté de lire Aristote seulement 2 fois dans sa vie, à 2 occasions de sa vie. Lorsqu'il s'est marié, la nuit de noces, et lorsque son père est mort. Le reste du temps, il lit Aristote. Donc c'est une vie consacrée à l'étude sur la base d'une éducation d'honnête homme. Donc cet homme a reçu, il était un homme d'une bonne famille. Son père était grand juge, son grand-père était grand juge. Donc il a reçu une éducation excellente sur la langue arabe, grammaire, poésie. Donc il a toute la culture qu'on appelle l'adab en islam. Et passé cette culture-là, et puis doté d'un esprit aussi génial que le sien, eh bien il s'est livré à l'étude en permanence.
Pour avoir sombré dans l'océan de l'illusion, pour avoir obscurci le jugement du peuple, notre calife a décidé de leur interdire d'enseigner dans les mosquées, de brûler leurs œuvres en place publique et de les bannir de l'Andalousie. Leur nom, Averroès, Abu Abbas.
Quelques cabales auront raison d'Averroès. Il sera banni par les orthodoxes musulmans. Mais la pensée a des ailes et nul ne peut empêcher son envol, comme le dit la chanson du film culte Le Destin de Youssef Chahine.
ياما في عمرنا علي صوتك علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة ممكنة علي صوتك علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة ممكنة
Mais l'étrange destin d'Averroès est de se trouver à peine mort, déjà lu dans un monde chrétien où il fait scandale. L'évêque de Paris condamne en 1270 puis en 1277 la doctrine averroïste, mais rien de mieux que quelques flammes colibées pour faire vivre la pensée du commentateur. Et puis, pas facile d'expurger les scories arabes des textes d'Aristote quand tout texte parvient par un canal impur, fait d'emprunts glanés dans la circulation même des textes.
On veut condamner une grande partie de ce qui fait scandale dans les commentaires d'Averroès, c'est-à-dire ce qu'on a appelé plus tard le monopsychisme, sa théorie de l'intellect, dont Thomas d'Aquin aura été le plus grand adversaire. Donc il est vrai que cette date, pour les lecteurs d'Averroès, pour les partisans d'Averroès, cette date est un coup dur où on condamne, on interdit une manière de lire ce qu'Averroès dit de la psychologie, de la théorie de l'âme, du rapport de l'âme et du corps, de la pensée, de l'intellect. Et le coup sera si dur que, de fait, à Paris, pendant plusieurs années, avant que cela ne réapparaisse, ce qu'on a appelé, d'un terme complexe, l'averroïsme latin, disparaît.
Averroès est entré dans la culture latine à travers les grandes controverses sur Aristote au XIIIe siècle et surtout avec ce qu'on a appelé le premier contresens.
Henri Laurence.
Sur Averroès, c'est-à-dire la théorie de la double vérité qui n'existe pas du tout chez lui, mais dont ses adversaires l'ont accusé à Paris d'avoir fait. Et c'est donc à partir des controverses parisiennes du XIIIe siècle que va apparaître l'idée d'un Averroès libre penseur, qui n'était certainement pas la réalité d'Averroès, ce grand cadi d'Al-Andalus.
Double vérité, qu'est-ce qu'on a compris dans cette idée de double vérité ?
Qu'il y a une vérité selon la religion et une vérité selon la raison ou selon la philosophie. Alors que c'est plutôt un concordiste entre la raison et la révélation. Mais en tout cas, on lui attribue à Paris, dans la seconde moitié du XIIIe siècle, l'opposition des deux vérités. Et c'est là où apparaît le personnage d'abord médiéval, quasi démoniaque, du philosophe contestataire de la religion, du libre-penseur.
Qu'est-ce qui heurte ? C'est ce qu'Averroès dit de l'intellect. Il essaie de comprendre ce qu'Aristote dit dans son traité de l'âme, de l'intellect de l'homme. Il essaye de se prononcer sur ce que penser veut dire. Et tout lecteur actuel d'Aristote sait bien que cette question est très épineuse, parce que sur la question de l'homme, Aristote semble menacer tout ce qu'il avait établi de façon générale et qui concernait l'animal. Autrement dit, l'homme n'est décidément pas un animal comme les autres. Ce qui le distingue de l'animal, c'est l'intellect. Et lorsqu'on essaie, même rapidement, de dire quelque chose de cette propriété qu'est l'intellect humain, eh bien, les problèmes commencent, s'amoncellent. Et c'est cette lecture-là que les latins, à la fois en chrétien et, comme je le redis, en philosophe, ne vont pas accepter en jugeant qu'elle était destructrice de l'anthropologie, destructrice de la morale, destructrice de la politique. La lecture qu'Averroès donne de la pensée et de l'intellect, c'est une philosophie de l'anti-sujet, de l'anti-cogito, du non-sujet. C'est-à-dire une philosophie où l'individu, où l'homme, le sujet, disons, est privé, se voit privé de ce qui est censé le constituer, à savoir l'intellect. Donc la grande idée moderne, pour le dire vraiment en termes très simples, c'est que l'individu humain est un agent autonome, qu'il est source de ses normes, de ses valeurs, source de ses actions, responsable de ses actes, qu'il pense ce qu'il veut, qu'il fait ce qu'il veut à partir de ce qu'il a voulu penser, qu'agissant, il est responsable de ce qu'il a fait, et tout ça repose sur son intellect, sur la propriété d'une intelligence à lui. C'est cela qu'Averroès, commentant Aristote, aurait détruit, dans l'idée que non seulement l'intellect n'a pas d'organes, que l'intellect est coupé des corps humains, mais coupé de façon radicale. C'est-à-dire qu'au fond, les corps humains et les hommes eux-mêmes existeraient indépendamment de l'intellect, comme si les hommes n'étaient d'abord que des bêtes et que la pensée ne serait qu'une aventure épisodique, anecdotique, qu'un accident survenant ponctuellement lorsqu'il s'agirait de conceptualiser telle ou telle chose, mais que le reste du temps, ce qui ferait l'homme, c'est une forme d'animalité supérieure, mais simplement une animalité. Ça, c'est le premier point que les latins ne supportent pas, c'est-à-dire l'idée que l'intellectualité, l'intellect, ne soit pas d'emblée constitutif de l'humanité de l'homme, qu'il y aurait une espèce d'humanité qui serait simplement animale. Le deuxième point, c'est que cet intellect qui est retiré du corps de l'individu, eh bien, n'aurait pas de personnalité, ne serait pas en lui-même singularisé, et qu'au fond, en lui-même, il serait unique pour tous les hommes. Et qu'au fond, nous penserions, nous, corps animaux, corps fantasmants, nous penserions par le biais d'une seule et même intelligence. Donc, dire cogito ergo sum, cogito au sens de je cogite, je pense, c'est moi qui pense quand je pense, cette idée-là s'effondrerait chez Averroès, parce que le principe même de la pensée, il le rendrait anonyme et il le couperait des corps des individus.
Qu'est-ce que ça pourrait bien être, cet intellect qu'à la fois nous partageons tous mais qui ne nous appartient pas ?
Bien précisément, nous avons du mal à le percevoir parce que nous sommes complètement formatés par la révolution cartésienne qui part du cogito, du je pense. Là, il faut faire une petite révolution dans sa tête, ou en tous les cas, mettre en réserve Descartes et revenir à un monde médiéval qui commentait Aristote. Et d'Aristote à Averroès, précisément, c'est un intellect qui pense toujours. Donc il a la caractéristique d'être divin. Et les hommes, à hauteur de leur effort, se joignent à l'intellect ou ne se joignent pas à l'intellect. La plupart du temps, nous sommes dans la rhétorique, dans la persuasion, dans les images, dans les métaphores, dans l'opposition des opinions, la controverse. Mais accéder pleinement au concept pensé de lui-même, ça c'est très important. Pour Averroès, les pensées sont des penseurs et les penseurs sont des pensées. Quand on arrive à ce stade de l'intellect indifférencié, c'est le trésor commun de pensée des scientifiques qui précisément arrivent à un niveau d'abstraction généralisable. Les équations de Maxwell, la loi de la gravitation appartiennent à un domaine de la pensée qui n'est pas proprement, selon Averroès, n'appartiennent pas spécialement à l'homme. Ce sont des pensées non humaines, ça ne veut pas dire qu'elles sont inhumaines, mais ce sont des pensées précisément que tout le monde partage. L'humanité peut hiberner 500 années, le théorème de Pythagore ne change pas, et c'est par la logique qu'on arrive à, si vous voulez, ces principes de pensée qui ne sont pas proprement humains, mais que l'homme peut rejoindre à hauteur de son effort. Voilà à peu près, si vous voulez, ce monde spéculatif qui est absolument merveilleux, qui est une gymnastique pour l'esprit, cette fois-ci humain, une gymnastique extraordinaire.
Averroès, c'est celui qui, commentant Aristote, rend impossible cet énoncé cet homme pense, c'est un homme qui défendrait de façon absurde, parce qu'en vérité lui-même ne pourrait pas l'admettre, l'énoncé, sa pense, comme si l'individu n'était plus qu'une sorte de pantin, de marionnette, de fourniture au service d'une pensée cosmique, satellitaire, transcendante.
Nous serions tous reliés d'une certaine manière.
Nous sommes tous reliés à une seule puissance de pensée, mais la manière que nous avons de nous approprier cette puissance de pensée est propre à chacun. C'est-à-dire que chacun chemine vers l'intelligence à sa façon, compte tenu de ce qu'est son corps, compte tenu de ce qu'est l'expérience de la vie, compte tenu de ce qu'il imagine. Puisque nous n'accédons à la pensée, à la vérité, qui est une pour tous, que par le biais de fantasmes, d'imagination personnelle.
L'inquiétant Averroès. Il est l'homme en turbané, l'arabe, l'homme avec la barbe. C'est Averroès, là, sur le tableau. D'ailleurs, on le nomme souvent comme ça, Averroès, l'arabe. Face à lui, saint Thomas d'Aquin triomphant, recevant la vérité d'en haut, écrasant de sa science Averroès, Ibn Rajn, défait par le génie chrétien.
Quand on regarde les tableaux qui nous restent, parfois sur des murs, en Italie, mais dans toute l'Europe, il y a des choses à découvrir, comme par exemple ce tableau qu'on ne trouvait jamais, qu'on ne voit jamais, qui se trouve à Syracuse, en Italie, dans le sud de l'Italie, en Sicile. Et c'est un tableau d'un auteur anonyme, peut-être exécuté sur la base d'un prototype d'Antonello de Messine. Et c'est un tableau magnifique, un triomphe de saint Thomas, un de plus, un tableau assez endommagé, mais qui apporte un élément assez fascinant, c'est que Averroès, qui est au pied du saint, qui est battu, est dans une position curieuse, de mélancolique. De son index, il pointe quelque chose vers le sol, il porte le turban et la barbe, et il semble regarder quelque part. Mais lorsqu'on s'approche, on se rend compte que ses deux yeux ont été crevés et que la toile a comme été découpée au couteau et qu'on l'a exorbité en quelque sorte. Détail intéressant, assez sublime, quand on sait que ce que via Thomas d'Aquin, les latins reprocheront à Averroès en séparant l'intellect de l'homme, de priver l'homme de ses yeux. Au fond, qu'y a-t-il de plus précieux que l'œil, qui est comme le symbole même de sa lumière et de son intelligence? Et Averroès, c'est l'homme qui exorbite l'individu, qui taille ses yeux et les lui ôte et ne nous laisse plus que des globes vides. L'homme qui a privé l'homme de son intelligence bien se voit privé de la sienne et on le représente comme dépourvu d'œil, incapable de regarder nulle part. Donc il est condamné par la même où il a péché.
À partir du moment on lui a attribué ce qui n'est pas du tout la réalité. La théorie de la double vérité va se poser des questions. La première question était de savoir si, oui ou non, les gens du XVIe siècle avaient les outils mentaux pour penser l'athéisme ou non. Et, alors, ce qu'on a en revanche, c'est que dans l'héritage de la pensée grecque par rapport aux religions révélées, va se poser quelque chose qui n'existait pas à l'époque de la pensée grecque, c'est-à-dire l'opposition entre la philosophie, c'est-à-dire la raison, et la révélation. Et aussi bien dans les trois religions monothéistes, à partir du moment où la philosophie ressurgit, la philosophie s'articule sur la raison, le logos, etc., et se heurte à la révélation. Alors, vous avez justement toutes les tentatives concordistes, et Averroès était un concordiste, qui disait que la raison n'est pas en conflit avec la révélation, elle permet de l'éclairer, mais on lui attribue la théorie inverse. Et à partir de ce moment-là, vous aurez, d'un côté, ce qu'on appelle l'école de Padoue, qui sera inspiré par Aristote et par Averroès. Et puis surtout, on va par exemple attribuer à Averroès, mais plus tard, un texte d'autant plus célèbre qu'il n'existe pas pour l'instant, qui est celui des trois imposteurs.
Il finira par exister.
Le texte des trois imposteurs va être régulièrement cité, même s'il n'existe pas, jusqu'au moment où il sera rédigé dans le cadre de ce qu'on a appelé les Lumières radicales, qui sont les milieux gravitant autour du spinozisme à la fin du XVIIe siècle. Ça a été démontré récemment dans un livre, il y a une dizaine d'années, je crois. Alors évidemment, Averroès n'a pas écrit ce texte de la fin du XVIIe siècle, mais pendant longtemps, il a été l'un des auteurs soupçonnés d'un texte qui n'existait pas, qui était Les Trois Imposteurs, et qui montre bien ce héros de libre-pensée.
Étrange texte qui n'existe pas et qui finit par exister.
Oh, ça arrive souvent, vous savez.
Donc Averroès se trouve associé à ce texte, pour quelle raison?
Tout simplement à partir du rôle de libre penseur qu'on lui a donné, mais qui n'était pas du tout le sien. Mais en revanche, il est évidemment un défenseur de la raison, mais la raison n'est pour lui pas contraire à la révélation. C'est tout le problème des théologies chrétiennes, juives, musulmanes. À partir du moment où vous avez une révélation, quelle place donner à la raison? Et encore régulièrement, les papes font des encycliques sur ce sujet. Jean-Paul II, je crois, Benoît XVI, pas l'actuel, mais les deux prédécesseurs, ont fait des encycliques sur les rapports entre raison et révélation, ou science et révélation. Mais raison et science, c'est la même chose dans le vocabulaire théologique.
L'Iran, l'Afghanistan, l'imam Khomeini appelle les musulmans du monde entier à tuer un écrivain britannique, auteur d'un livre jugé blasphématoire envers le prophète Mahomet.
1989.
Appel au meurtre contre romancier trop imaginatif. L'ayatollah Khomeini a déclenché sa sainte colère contre le romancier britannique d'origine indienne, Salman Rushdie, qui est musulman également. Il a carrément condamné à mort l'auteur du livre intitulé « Les versets sataniques » quelques jours seulement avant la mise en vente de l'ouvrage aux États-Unis.
À part avoir 69 ans, je vais plutôt bien, oui.
Salman Rushdie, dont le nom est emprunté à Ibn Rushdie.
Je vous dis ça parce qu'il y a une phrase au début du livre où l'un des personnages, le philosophe Averroès, qui s'appelait aussi Ibn Rushd, dit à propos de ses enfants, les appeler Rushdie serait les envoyer dans l'histoire avec une marque sur le front. Et évidemment, on ne peut pas ne pas penser que vous êtes le condamné à mort le plus célèbre au monde pour des mots que vous avez écrits. Cette marque sur le front, vous l'avez eue aussi.
Yeah, well, that was a joke.
C'était une blague.
Just to make clear that I understand that the name.
Je comprends que le nom Ibn Harushd est relié à mon propre nom.
And that his life
et que sa vie
some relationship to my life,
because, avait quelque chose à voir, grosso modo, avec la mienne, parce que c'était un très grand philosophe, c'était le médecin de la cour du sultan à Cordoue, et lui était persécuté aussi par les fanatiques de son époque. Et ses livres ont été brûlés, il a été exilé. Plus tard, il a été réhabilité. Mais je me suis dit que j'y connais quelque chose.
Que pense-t-il des théologiens, Averroès?
Il pense des théologiens du mal. Il ne pense des théologiens que du mal. Et il ne faut surtout pas confondre les théologiens avec les religieux. Donc dans la foule, il y a les théologiens et puis il y a les religieux sincères, les religieux naïfs, les croyants, l'homme de la foule qui ne dialectise pas et qui n'est sensible qu'à la rhétorique. Pour Averroès, la théologie, c'est un peu un cancer de la société. La vraie question, c'est une question qui est adressée au pouvoir politique. Et c'est la question qui consiste à savoir contrôler l'exercice de la théologie. Qu'il y ait des théologiens, soit. Que ces théologiens dialectisent, soit, mais qu'ils ne divulguent pas leur savoir, qu'ils ne diffusent pas sans contrôle le fruit de leur dialectique. C'est là que la théologie pose problème. la théologie, c'est-à-dire un certain exercice de la raison qui produit des syllogismes, mais sur des prémices seulement probables. Les théologiens sont des hommes qui raisonnent, mais qui raisonnent de travers, sur des bases faibles. Donc ils produisent beaucoup de faux, mais ils produisent beaucoup. Donc ils produisent beaucoup de confusion. Et il est très facile de les écouter, d'autant plus facile qu'on est en contexte islamique et qu'ils ne parlent que d'islam. Mais en vérité, ce qu'ils proposent n'a rien de net. Et l'espèce de perfection que représente le Coran, eh bien, ils la détruisent. Sous prétexte d'expliciter la parole coranique ou de la défendre, en vérité, ils en détruisent le parfait équilibre, puisque le texte coranique est parfait pour Averroès en ce qu'il peut se faire comprendre de tout le monde. Le philosophe est capable de retrouver sa parole philosophique au prix de l'interprétation, et l'homme de la rue, l'homme sincère, le croyant, le pieux, eh bien, peut se satisfaire et donner son assentiment à chacun des versets qu'il lira ou entendra. L'Averroès, c'est celui qui dirait « La religion, ça ne vaut pas, seule vaut la philosophie et Aristote qui démontre la vérité, reste que nous devons prier, faire comme tous les autres, sans quoi nous risquerions notre vie. » Et cela va coller à l'image d'Averroès, celle de l'hypocrite, l'image de l'hypocrite, du double discours. Dans l'histoire d'ailleurs, c'est assez amusant à faire comme travail, on taxera d'avéroïste tout hypocrite. Toute personne soupçonnée d'un double discours sera taxée d'avéroïsme. Alors même qu'on ne lisait pas cet Averroès qui disait qu'il n'y a qu'un discours possible, c'est celui de la vérité, et que les discours n'ont pas à se mêler, mais en tout cas le philosophe en défendant sa philosophie ne dit pas autre chose que ce que le croyant croit lorsqu'il prie. C'est un discours qui consiste à dire que, au fond, la société idéale est une société à deux pôles, une société philosophique et une société où la religion structure le champ social. Rien d'autre, pas d'intermédiaire. La société vertueuse, c'est une société menée par un prince qui sait contrôler les théologiens d'une certaine manière pour les faire taire parce que ce sont eux qui nuisent à l'islam.
On fait d'Averroès un libre penseur, ce qu'il n'était pas. Ces pensées-là, nous les connaissons encore très mal. Nous avons lu que 10% des manuscrits médiévaux, et probablement on en a lu encore moins des manuscrits arabes pour la même période.
Chercher au Maghreb, au Moyen-Orient, mais surtout au Maghreb, je crois, au Maroc, est-ce qu'on retrouve des documents d'Averroès? Est-ce qu'on continue à actualiser sa pensée également en retrouvant de nouvelles sources?
Écoutez, il y a le travail extraordinaire qui a été effectué dans les années 80 par M. Al-Alaoui de l'université de Fès. Grâce à lui, on a pu avoir plusieurs épîtres totalement authentifiées et éditées. Il a appelé ça Al-Moutn al-Rushdi, le trésor ou l'héritage ou le legs d'Averroès, Ibn Rushd. Et il a fait effectivement un travail remarquable. Aujourd'hui, on n'a pas encore exploité tout le travail d'édition qu'il a pu faire en ce sens.
Comment s'est transmise sa pensée dans le monde arabo-musulman à Averroès?
Écoutez, il y a eu véritablement une grande transmission, mais totalement occultée. Comme quoi Averroès n'a eu qu'un destin dans le monde européen en raison de ses traductions latines qui ont été très vite faites dans les premiers demi-siècles après sa mort. Mais précisément, Averroès n'a pas cessé d'être commenté. Je ne prendrai comme exemple que Ibn Khaldoun, que vous avez mentionné tout à l'heure, et également Hassan al-Wazen, dit Léon l'Africain, donc 14e et 16e siècle, qui se réfère à Averroès, mais véritablement comme à quelqu'un qu'ils ont lu, bien qu'il y ait 2 siècles et 4 siècles d'écart. Et on n'a pas assez exploré toute la circulation de manuscrits entre Grenade, Cordoue, Fès, Tlemcen, Tombouctou, et surtout les zaouïettes, c'est-à-dire les bibliothèques liées à l'islam populaire dit des marabouts, donc les petites bibliothèques liées au culte des saints populaires partout en Algérie et au Maroc, et ainsi qu'en Mauritanie et au Mali. Et là, beaucoup de manuscrits ont circulé, ont été commentés. Je pense par exemple à ma spécialité qui est la philosophie de la logique, l'organon d'Aristote, c'est-à-dire les textes relatifs à la logique d'Aristote qui ont été commentés par Averroès. On sait qu'ils ont été commentés, les commentaires d'Averroès ont été transmis et commentés jusqu'au début du XXe siècle dans ces zaouïas dont je vous parle. Donc tout cela a été très vivace, mais peu documenté aujourd'hui, parce qu'on ne fait pas assez de travaux pour explorer cette circulation extraordinaire de manuscrits entre le XIIe et le XXe siècle.
Aujourd'hui, avec nos outils, nos pinces, Averroès tient un petit peu du savant providentiel. Comment est-ce que vous expliquez ça ?
Alors, Averroès, aujourd'hui, c'est pour ça que, on voit cet exemple dans le film de Youssef Chahine, Le Destin. Il y a Salman Rushdie aussi qui parle de lui, qui dit qu'on devrait en faire une bannière. C'est comme si il y avait cette idée que dans le monde musulman, depuis Averroès, rien n'avait été pensé, que ça s'était complètement arrêté et que du coup, on a une explication assez simple du déclin en fait du monde musulman. Mais est-ce que c'était lui le seul penseur à partir duquel on pouvait élaborer une forme de modernité ? Bon, dans toute la période, je serais surpris d'imaginer qu'il n'y a rien qui se soit passé, on va dire, entre le 11e ou 12e siècle, l'époque d'Averroès, et le 19e siècle, qui est l'époque de la Narda, d'une sorte de réveil intellectuel dans le monde musulman. Et puis je trouve que cette idée, elle est un peu morbide, l'idée de dire que pour créer la modernité, il faut aller rechercher un savant qui a vécu il y a 900 ans. Ça me paraît malgré tout un peu délicat, un peu c'est un peu étroit, j'ai l'impression, comme vision des choses. Et puis c'est un peu mettre beaucoup de choses sur le dos d'une simple personne, et c'est manquer de confiance aussi dans les ressources actuelles, dans les ressources intellectuelles contemporaines du monde musulman. Et je pense qu'ils n'ont pas nécessairement besoin de revenir à Aristote ou à Averroès. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui étudient la philosophie, la physique quantique et tout un tas de choses qui sont tout à fait capables de produire de la modernité sans avoir besoin spécialement de cet étendard-là d'Averroès. Enfin, je veux dire, c'est comme si on prenait un penseur dans le monde chrétien et qu'on disait non, mais il faut revenir à lui, même si on prenait, j'en sais rien, Voltaire, ou pour prendre quelque chose de plus récent dans la philosophie des Lumières. Il y a plein de choses qui se sont pensées entre-temps. Enfin, ça paraîtrait absurde à tout le monde comme idée.
C'est le mettre dans une forme d'écrin.
Oui, tout à fait. C'est le mettre dans une forme d'écrin. En fait, c'est mettre Averroès dans une forme d'écrin. Et je dirais que d'une certaine manière, c'est une vision presque orientaliste, en fait, de la chose. Dans le sens où l'orientalisme, c'est ce qui fige l'Orient dans une sorte d'atemporalité. Et ça, c'est un produit de l'époque coloniale. C'est un produit de la pensée de la fin du 18e et surtout du 19e siècle, à partir du moment où l'Europe a commencé à gagner une course de vitesse contre, à l'époque, l'Empire ottoman, qui était son plus grand concurrent, on va dire, dans le monde musulman. Et on s'est mis à... il suffit de regarder les tableaux de Ingres, de Delacroix, ou à lire les récits de l'époque sur l'Orient. C'est-à-dire l'Orient, c'est un monde un peu fantastique et fantasmatique qui est figé en dehors du temps. Et donc, du coup... Moi, je trouve que c'est une idée très paradoxale de dire « Ah bah ça y est, c'est un peu comme Sarkozy qui était allé dire « L'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire ». En fait, c'est la vision de l'Occident, c'est la vision de l'Europe de l'époque coloniale, surtout le reste du monde. Sauf maintenant sur l'Asie, parce que là, on peut plus dire qu'ils sont pas dans l'histoire. Mais en tout cas, sur le monde musulman, sur l'Afrique subsaharienne, on a cette vision-là. Ces gens-là sont pas dans l'histoire. Et donc, pour leur permettre de rattraper l'histoire, on va les renvoyer 900 ans en arrière. Personnellement, je trouve ça un peu absurde.
La chose qu'il ne faut jamais oublier lorsqu'on parle d'Averroès, c'est que ça n'est pas un barbare. C'est-à-dire, ça n'est pas un penseur ou un homme qui serait aux frontières de l'Europe, qui aurait été aux frontières de l'Europe, laquelle n'existe pas comme telle à l'époque où il vit et où il écrit, et que l'Europe aurait eu à affronter comme un dedans par rapport à un dehors. L'idée, c'est que Averroès, il est en tant que penseur. Je ne dis pas en tant que musulman, mais en tant qu'auteur, en tant que producteur de philosophie, en tant que lecteur d'Aristote, en tant que, par ses commentaires, il est constitutif du corpus scolastique en train de se faire, bien, il est au-dedans de l'Europe. Il est au-dedans de cette scolastique naissante et du savoir moderne en train de se constituer. Et donc, l'Europe ou la scolastique qui le condamne, condamne un élément de sa propre histoire, refoule un élément de sa propre acculturation. Sauf que, comme chez Freud, le refoulé ne cesse de faire retour. Et on pourrait dire que l'histoire même de l'avéroïsme atteste ce retour. Parce qu'au fond, si cet homme avait été condamné définitivement, comme on l'a prétendu, on n'en aurait plus parlé, passé 1274, passé la mort de Thomas d'Aquin. Or, en vérité, il ne cesse jamais de revenir. Et pourquoi ne cesse-t-il jamais de revenir ? Parce que, précisément, il est l'un des ferments de l'Europe. Et qu'on ne peut pas, si je puis dire, effacer radicalement sa dette. Elle ne cesse de taper à la porte pour faire valoir ses droits, en quelque sorte. C'est quand même le symptôme de quelque chose. C'est-à-dire de quelque chose que résiste une figure là qu'on a voulu exclure, condamner, mais qui résiste parce qu'elle a autre chose à dire, qu'elle a autre chose à porter qu'une parole de scandale, que ce qu'elle a constitué pour l'Europe, c'est autre chose, c'est-à-dire la constitution d'un savoir dont l'Europe est en partie débitrice. Donc c'est du dedans que l'Europe s'est rapportée à Averroès. Elle s'est rapportée à lui pour entamer, engranger une part de son acculturation. Et au fond, si Averroès revient, c'est parce qu'il est cette figure intérieure au processus culturel de l'Europe, et non pas son dehors. On se coupe du dehors, on ne se coupe pas de son ferment.
Averroès ou l'éternel retour du contresens. Un documentaire de Nechma Bouakra et Marie Placer. Avec Henri Laurence, historien et professeur au Collège de France, Jean-Baptiste Brenet, professeur de philosophie arabe, Ali Ben Makhlouf, professeur de logique et de philosophie arabe, Karim Misquet, auteur et documentariste. Prise de son Stéphane Beaufis, au mixage Pierre Monteil. Une vue, une œuvre, coordination Christine Bernard.